On est dans ce temps de Pessah, et comme j'aime à le dire depuis pas mal de temps, en fait, une sortie d'Égypte, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Il y a eu 10 plaies qui ont préparé cette sortie d'Égypte. On a vu que le fondement de la sortie d'Égypte est dans Abraham, dans la promesse que Dieu avait faite, et dans un deuxième temps, dans la révélation de son nom à Moïse, Moshé, dans le cadre du buisson ardent, où il révèle un ensemble de choses et qui est le fondement de la sortie de Pessah, de l'Égypte, le fondement de la délivrance. Et je crois que c'est très important parce que très souvent on l'oublie et on n'a pas souvent l'habitude, pour beaucoup en tout cas, d'avoir un itinéraire qui prépare quelque chose, un événement et une fête de l'Éternel. Ce n'est pas quelque chose, on attend que la fête arrive à la date X pile et on va s'y conformer, on va la faire, alors qu'il y a toute une préparation qui est faite au préalable depuis très longtemps. Pour les enfants d'Israël, la préparation de la sortie d'Égypte au travers des 10 plaies a duré plus d'une année. Et donc il faut savoir qu'à chaque fois, c'était un moment où Dieu parlait, c'était à chaque fois quelque chose qui manifestait un événement très précis dans l'Égypte. Et finalement, il y a eu cette libération. Alors on peut se focaliser en disant c'est merveilleux cette libération, mais il y a tout l'arrière-plan qu'il faut considérer. Il y a tout ce qui s'est produit, mais également toutes les difficultés, tous les obstacles qui ont été rencontrés par rapport à cette sortie d'Égypte. Elle n'a pas été simple, elle n'a pas été facile, elle n'a pas été quelque chose de fluide, comme on dit aujourd'hui. Alors, la base de Pessah est de toute façon lié à cette sortie d'Égypte. C'est Pessah qui fonde la sortie d'Égypte réellement parce qu'elle amène la libération de l'esclavage. Elle fait sortir de l'asservissement que les Égyptiens avaient exercé durant des siècles sur maintenant ce peuple qui avait grandi. Et je crois que c'est très important parce que comme je vous l'ai mentionné dans Bereshit, dans le livre de Genèse au chapitre 15, et au verset 13, il est dit « Tes descendants seront en captivité pendant tant de siècles, tant de temps, et je les libérerai. » Et il faut savoir que de Abraham à Moïse, il y a quand même un certain temps qui s'est écoulé, un temps qui a construit, bâti l'histoire de la rédemption. Et donc, le moment est venu pour l'Éternel d'intervenir, et je crois que c'est très important de pouvoir le retenir, parce que c'est à ce moment-là précis que Dieu décide d'intervenir dans l'histoire des hommes et de lui donner un autre sens, et de lui donner une incarnation rédemptrice dans l'histoire. Pas simplement un Dieu qui parle d'en haut et le bas n'entend pas, n'écoute pas, ou simplement est en train d'analyser ce qui est dit, ou s'énorgueillit de ce qu'il reçoit, mais n'avance pas dans l'action. Là, c'est carrément autre chose, et je crois que il nous faut savoir que dans Genèse 15:3, il est dit « Ils séjourneront dans le pays d'Égypte ». Il y a une précision qui a été donnée, et pendant 400 ans, cela se fera, et ils sortiront. Et c'est cette promesse qui est la base de cette sortie d'Égypte. C'est cette promesse que Dieu a faite à Abraham, a révélée à Abraham, celui qu'il aimait, alors que on aurait pu penser que c'était simplement la situation du vécu des Hébreux dans l'Égypte qui aurait fait intervenir Dieu. Non, c'est dans cette base-là. Et il faut bien comprendre que le fondement est avant toute chose spirituel. On dit en hébreu que Dieu n'agit jamais dans le temps du hasard. Le hasard n'existe pas. Pour ceux qui ont lu l'article de Pourim, vous avez pu remarquer que le hasard ne peut pas être non plus une coïncidence de l'histoire. Il y a un temps qui est fixé. Dieu a fixé des temps et des moments pour agir. La descendance qui est née en Égypte, malheureusement, a été esclave. Et elle a subi un certain nombre de privations. Mais maintenant, arrivait le moment de sortir de l'Égypte. Et il faut se poser la question, mais comment Dieu allait-il s'y prendre pour faire sortir un peuple si nombreux d'un pays si puissant, avec tellement de possibilités militaires, avec une mainmise là-dessus, comment Dieu allait-il s'y prendre? Est-ce que Dieu allait déchaîner les éléments naturels? Est-ce que l'Éternel allait soulever des peuples alentour pour attaquer l'Égypte et libérer ce peuple? Eh bien, le mystère de Pessah, le mystère de cette sortie d'Égypte, c'est que Dieu ne choisit aucune de ses solutions. Et il dit littéralement qu'il vient lui-même. Et là, c'est la particularité. Là, c'est la différence avec tout. Il dit, le temps est fixé et Dieu va agir afin de libérer le peuple de l'esclavage. Et c'est ce que l'on appelle la sortie d'Égypte. Dans le chapitre 3 de l'Exode, le verset 7 et 9 nous conduit à quelque chose de très intéressant. Dans Shemot, le chapitre 3, et à partir du verset 7. Alors je le lis dans la version Zadokan. L'Éternel poursuivit, et il dit, « J'ai vu l'humiliation de mon peuple qui est en Égypte. J'ai accueilli sa plainte contre ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis donc intervenu pour le délivrer de la puissance égyptienne et pour le faire passer de cette contrée-là dans une contrée fertile et spacieuse, dans une terre ruisselante de lait et de miel où habitent le Cananéen, l'Éthien, l'Amoréen, le Phérésien, l'Évien et le Jébusien. Et l'Éternel dit, oui, la plaine des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi. Oui, j'ai vu la tyrannie qui les accable. » Et à partir de ce moment-là, nous savons tous que c'est Moshé qui va être envoyé auprès de Pharaon. Et cet envoi auprès de Pharaon va commencer à instaurer un phénomène nouveau. C'est-à-dire que tout à coup, il va y avoir le début des 10 plaies. Il va y avoir quelque chose qui va s'affronter avec le monarque de la temporalité, pas face à celui qui est l'infini, l'éternité, celui qui n'a pas de commencement et de fin. Et on se rend compte que il y a quelque chose de très difficile, de conflictuel entre cette temporalité qui voudrait le pouvoir et avoir le droit sur le temps et maîtriser l'existence qu'il ne peut pas, car il est dans la finitude, par rapport à l'infini qui, lui, n'a pas de limite. Et c'est ce qui est extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que nous avons lu devient le fondement de cette histoire du peuple juif qui commence réellement par ce « j'ai vu ». Dieu a vu, Dieu a entendu et il est venu. En même temps, c'est dans le fondement de son nom, les 4 lettres du tétragramme, que réellement Moshé est envoyé. Il n'est pas envoyé par n'importe quel nom. Il n'est pas envoyé par une puissance. Il est envoyé par le nom. Il est envoyé par ce qui fonde le IHRIE, la dimension de l'éternité, la dimension de la toute-puissance, de la création, de celui qui a tout créé. Et c'est réellement dans ce contexte-là. Donc je ne vais pas développer les 10 plaies et un ensemble de choses, mais il nous faut comprendre que Dieu est en train de mettre en place quelque chose que très souvent on oublie, que la délivrance des Hébreux par rapport à cette sortie d'Égypte va fonder un autre sens de l'histoire. Elle va donner un autre sens à la compréhension de l'histoire et au but de l'histoire. Elle va lui donner déjà une compréhension de rédemption, de salut. Et en même temps, l'Éternel va fixer des règles dans le cadre de la 10e plaie, puisque c'est la 10e plaie qui sera la dernière et c'est celle qui va laisser partir les Hébreux qui sont sous l'esclavage de l'Égypte, partir libres. Mais juste auparavant, il y a quelque chose qui est pour nous, en tout cas de toute façon pour les Juifs, intéressant mais en même temps mystérieux. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire un céder de Pessah, d'instaurer un ordre, puisque céder veut dire ordre, un ordre pour la sortie d'Égypte? qu'on trouve dans Exode 12, avec des règles très précises qui se vivent encore aujourd'hui. Nous l'avons fait hier soir. La plupart d'entre vous l'ont fait hier soir, le CDR de Pessah. On n'a pas pu le faire communautairement. Ce n'est que partie remise. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que dans le CDR de Pessah sont marquées les 15 étapes de la liberté. Et elles sont dans la 10e plaie. Elles se trouvent dans cette 10e plaie. En fait, cette partie de Exode 12 qui fonde le CDR de Pessah, les règles pour partir libre, sortir libre de l'Égypte, se trouve en même temps avec la 10e plaie. Elle fusionne presque. Elle se passe au même moment. C'est dans ce même moment. C'est dans une fusion, on dit, du temps. Et je crois que c'est très important parce que la plaie qui a frappé à ce moment-là n'était pas n'importe laquelle. C'était pas simplement toucher les récoltes, la culture, l'eau, les éléments, mais la vie de l'homme lui-même. Les premiers-nés, pas seulement d'Égypte, tout premier-né. Il pouvait être juif, il pouvait être hébreu, il pouvait être égyptien, il pouvait être un étranger. C'était tous les premiers-nés. Il n'y en avait pas un qui était épargné. C'était tous les premiers-nés, tous confondus. C'était pas ciblé particulièrement que pour l'Égypte. Bien sûr que l'Égypte a été concernée en premier. Mais en même temps, il faut savoir que c'était pas uniquement pour eux. Tous les premiers-nés. Cette liberté et délivrance, elle a un but, c'est de faire de ces esclaves des hommes libres. Et il y a une chose qui est très difficile à vivre, c'est de savoir comment passer de l'esclavage à la liberté. Comment vivre la liberté quand on a été esclave? Comment véritablement gérer cette liberté quand on a été dans l'esclavage mental, émotionnel, intérieur, physique, quand on a été dans quelque chose qui nous a asservi pendant des années, qui nous a dominé et qui nous a écrasé et qui nous a détruit à l'intérieur de soi, dans notre âme, dans notre physique, dans notre mental, dans notre pensée. Et il faut savoir que les Hébreux qui sont sortis étaient des personnes qui avaient été écrasées depuis 400 ans, et qu'ils étaient réellement, à l'intérieur d'eux-mêmes, complètement détruits. Et pourtant, ils vont devoir vivre cette liberté. En même temps, quel était le but de cette liberté? Était-ce simplement de les faire sortir et puis après débrouille-toi? Non, nous l'avons bien lu, pour t'amener dans une contrée où coule le lait et le miel. Le pays des promesses, Abraham, encore une fois, qui se retrouve. Mais avec une particularité encore plus grande. Pour en faire un peuple qui ne soit pas n'importe quel type de peuple, un peuple de prêtres, de sacrificateurs pour l'Éternel et une nation sainte. Le but de la liberté des Hébreux, ce n'était pas simplement devenir libre, politiquement parlant. Ce n'était pas simplement acquérir une liberté, avoir quelque chose qui change en quelque sorte leur style de vie, leur mode de vie, mais pour en devenir, pour que l'Éternel les fasse devenir un peuple de prêtres et une nation sainte. Alors il est à noter que il y a dans tout cela une particularité. Et je ne sais pas, je pense que pour la plupart, c'est pas obligatoirement connu. Qui connaît la loi des premiers-nés? Est-ce qu'il y a une loi des premiers-nés? Il est dans Exode, au chapitre 13. Et regardez, on est réellement dans l'Exode, au chapitre 13. Et c'est quelque chose qui est assez remarquable. Parce que on a l'impression parfois que il n'y a pas de sens dans ce que Dieu fait, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de structure. Et finalement, la Torah nous démontre, Dieu a tout structuré. Alors on va lire, « L'Éternel parla à Moshé en ces termes, « Consacre-moi tout premier-né, tout tout prémisse des entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, c'est mon bien. » Moshé dit au peuple, « Qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de servitude, alors que par la puissance de son bras, l'Éternel vous a fait sortir d'ici et que l'on n'en mange point de pain levé. C'est aujourd'hui que vous partez dans le mois de la germination. Et donc l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Héthien, de l'Amoréen, du Hévien, du Phébusien et du Jébusien. Pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Pays ruisselant de lait et de miel, tu célébreras. Il est écrit, tu célébreras cette cérémonie dans ce même mois. 7 jours durant, tu te nourriras de matzot, et le 7e jour, fête en l'honneur de l'Éternel, et non une fête juive, en l'honneur de l'Éternel, des 4 lettres du tétragramme, si on lit littéralement dans la Torah, on se nourrira de matzot durant ces 7 jours, et l'on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain, dans toutes tes possessions. Tu donneras alors cette explication à ton fils. C'est dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur quand je suis sorti d'Égypte. Et tu porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux, afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche, que d'un bras puissant l'Éternel t'a fait sortir de l'Égypte. Tu observeras cette institution en son temps, à chaque anniversaire, qui devient une commémoration. Lorsque l'Éternel t'aura introduit dans le pays du Cananéen, selon ce qu'il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura livré, tu céderas à l'Éternel toute prémisse des entrailles, tout premier-né des animaux qui t'appartiendront, s'il est mâle, sera à l'Éternel. Le premier-né d'un âne, tu le rachèteras par un agneau. Sinon, tu lui briseras la nuque, et le premier-né de l'homme. Si c'est un de tes fils, tu le rachèteras. Amen. On pourrait lire plus loin, mais on va se tenir à ça. C'est quelque chose qui nous démontre que, oui, il y a Exode 12 avec la règle cédère, etc., qui pourrait nous donner simplement les règles de conformité, de compréhension par rapport à quelque chose. Et puis, on découvre qu'il y a une autre dimension dans ce chapitre 13 où il nous est dit que il y a quand même des choses dont il faut se souvenir. Il y a des choses dont il faut marquer la mémoire. Il y a des moments où la mémoire doit être gravée, non pas par simplement des éléments extérieurs, mais par ce qui vient d'en haut. Et il nous est précisé, souvenez-vous de ce jour. Ce qui inclut la délivrance par Yeshua, le Messie. Souvenez-vous de ce jour, parce que ce jour deviendra un jour d'accomplissement. Il n'est pas dans l'immédiat, pour l'instant, il touche le physique avec toute une dimension, mais un jour, il touchera l'autre niveau. Et je crois que c'est quelque chose de très important, parce que les gens, aujourd'hui, on est tellement absorbé par des soucis, des problèmes, et il y a tellement d'informations qui viennent que nous avons des pertes de mémoire, des oublis, des comas spirituels, intérieurs, émotionnels. On a des choses où on passe toujours à autre chose. On est toujours en train de vouloir autre chose et on n'est plus dans quelque chose qui doit se souvenir de ce qui a marqué le temps de la rédemption, le temps de la liberté. Et je crois que c'est l'un des points les plus importants. Maintenant, dans cette règle des premiers-nés, beaucoup ne font pas attention sur le fait que si ton premier-né est un homme, tu le rachèteras. C'est une loi de rachat. C'est une loi très particulière en Israël, parce que le rachat est toujours associé à une forme de rédemption, de rémission, de rétablissement des choses. Elle est quelque chose qui va donner une nouvelle dimension à l'existence. Un peu comme Abraham avec Yitzhak. Et on voit qu'il y a toujours cette notion qui intervient dans l'histoire lorsque l'Éternel agit. Alors je voudrais vous donner quand même quelques éléments concrets à ce niveau-là. parce que ce n'est pas le cœur de mon message, mais de vous donner quelques éléments clés qu'il nous faut intégrer également par rapport à cette notion de premier-né. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous aujourd'hui et dans les temps qui viennent. Le premier-né, dans la Bible, est avant tout désigné comme étant le véritable héritier des choses. C'est celui qui hérite, c'est le droit d'aînesse. Le premier-né est celui qui est associé au droit d'aînesse. Et c'est lui qui va porter toutes les choses, même dans le futur. C'est ainsi que il y a eu ce conflit, on va dire, entre Ésav et Jacob à un moment donné, où Ésav va mépriser le droit d'aînesse, il méprise l'héritage acquis dans le Messie Yeshua du futur, dans la rédemption. Il n'a pas la compréhension de Malchut, il n'a pas la compréhension du Olam Haba, c'est-à-dire le monde futur, le temps de la résurrection d'entre les morts. Il n'a pas. Mais Jacob, lui, a vu. Et c'est pourquoi il a pris. Et quand il a reçu ce droit d'aînesse, même si Ésav voulait, par détour, en pleurant, en faisant toutes sortes de choses, l'acquérir, il ne pouvait pas. Il ne pouvait plus. C'était fini, c'était acquis pour Jacob. Et souvent, on voit les droits d'aînesse qui ont été inversés, notamment avec Menaché et Ephraïm, les fils de Joseph. Normalement, c'était Menaché qui aurait dû être au-dessus, et c'est en croisant les mains pour la bracha, la bénédiction, que Ephraïm va recevoir. Et il est très important que nous ayons cette notion qu'Israël est un premier-né dans l'histoire, dans la rédemption. Israël est le premier-né dans l'histoire de la rédemption. Il est appelé à être l'héritier des promesses. Israël, ce n'est pas simplement un peuple avec une politique. Israël, c'est pas simplement le peuple d'aujourd'hui, c'est le peuple relié aussi à hier, à toute son histoire, depuis sa sortie d'Égypte. Et c'est très important parce que il est appelé premier-né parce qu'il est l'héritier des promesses d'Abraham, d'Itsraël et de Jacob. Ce peuple est l'héritier des promesses d'Abraham. Et il est le premier-né dans l'histoire. Il est le premier à avoir marché avec Dieu, à avoir eu la connaissance de Dieu, à avoir reçu les promesses par rapport au futur, à avoir en son sein la naissance de Yeshua, qui est normalement appelé dans le monde rabbinique le Messie. Il est dans le peuple d'Israël, il est issu d'Israël. En même temps, il nous faut comprendre dans cette prolongation, un deuxième point, c'est que Yeshua est appelé lui-même le premier-né. Yeshua est un premier-né. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Luc, au chapitre 2, quelque chose d'important. On va lire à partir du verset 4. Yosef monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Myriam, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils premier-né. Elle emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place dans les hôtelleries. Il est le Zéra, il est la semence de Genèse 3.15. Il est réellement celui qui détient toutes les promesses. Dans Ésaïe 9.5, il est appelé, vous connaissez le passage par cœur normalement, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. Tel est l'héritage de ce fils premier-né. Et il dit également, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Regardez, on va voir une dimension extraordinaire, c'est dans le psaume 2. Dans les Tehillim, dans le psaume 2, il y a des choses extraordinaires dans ce passage. Ah, il est tellement beau celui-là. Ah là là. On va lire à partir du verset 4. « Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère, les épouvante dans sa fureur. C'est moi. Qui est moi ?» Les quatre lettres du tétragramme. C'est pas une divinité, c'est pas un Elohim, c'est pas un Dieu qui peut avoir de multiples facettes. C'est une identité de l'éternité, du verbe être. C'est moi qui ai oint. Et oint, c'est Mashiach. Mon roi, sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. À qui a-t-il dit? Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu n'es pas né, tu es engendré. Tu es issu de l'essence du Père. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, etc., etc. Et quand on veut aller quand même plus loin, il est appelé également le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 16, 17 et Hébreux 1:6 nous le démontre royalement. Mais ce qui est encore plus étonnant, on pourrait toujours s'arrêter sur les différentes dimensions de la personne, de ce premier-né, de ce qu'il peut représenter. Mais il y a une chose qui est associée à Pessah et qui demeure pour beaucoup un mystère parce qu'il n'est pas suffisamment correctement associé. C'est que Yeshua est appelé le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Il n'est pas seulement un premier-né pour la rédemption, pour la naissance ou l'engendrement. Il est un premier-né d'entre les morts. On peut lire dans Colossiens 1:8, d'ailleurs. Dans ce passage, qui est très important. Colossiens 1, 8, oui. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre du Messie et il nous a appris de quel amour l'Esprit nous anime. Oh, j'ai dû me tromper là. Non, 1, 16, pardon. Oh là 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 là. À partir du verset 15. Le Fils, le premier-né, l'unique, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Ecclésia. Il est le commencement. Il est le commencement. Écoutez bien. Il est la tête de l'Ecclésia et il est le commencement, mais il est le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de Golgotha. Alors là, il y a un élément troublant. Pourquoi le sang? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce que le sang vient faire là? C'est des passages que la plupart connaissent par cœur. Mais le lien, il est où? Et c'est là que nous pouvons même lire, si on le voulait, Hébreux 1:6. Mais l'Apocalypse également le mentionne comme étant celui qui est le premier-né d'entre les morts. Et être né d'entre les morts, c'est la résurrection. Et si vous comprenez la relation avec le sang, c'est Pessah. Le sang du rachat. Nous avons été rachetés. Il est le premier-né également, nous est-il dit, d'une nouvelle humanité. Il n'est plus de cette dimension, de cette humanité telle que nous la connaissons dans ses dimensions, mais il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Alors bien sûr que tout ceci concerne les temps qui ont été fixés par Dieu en rapport avec la fête de Pessah. Et c'est pourquoi il nous est dit de nous souvenir, mais aussi de célébrer Pessah. Parce qu'elle est en relation avec tous ces éléments, et rien ne vient annuler en aucun cas ceci. Cette fête, dans sa pratique, dans sa conformité, rien, rien. L'invention de Nicée, laissons-lui, mais je me conforme à la Bible, au Tanakh, au message, à l'enseignement du Messie. Le concile de Nicée ne m'intéresse pas. Et je n'y suis pas soumis ni lié. Il ne fait pas partie de la trajectoire de mon histoire, et en aucun cas, elle ne me dictera ce que je dois croire. C'est pourquoi il nous est dit de faire Pessah. Et il y a maintenant quelque chose dans lequel on doit entrer également, c'est que le verbe faire, il nous est dit de ne pas oublier pour faire. Il nous est dit de ne pas oublier pour faire. Et c'est chaque année que se rappelle ce fait. Le verbe « faire » revient de nombreuses fois, normalement plus de 200 fois, par rapport à Pessah dans la Torah. Et nous met en relation avec quelque chose qui est encore plus précis, parce que Pessah, c'est pas simplement faire le seder. Et je vais vous donner l'autre niveau du mystère de Pessah. Le niveau qui va faire décoller en quelque sorte notre cœur, notre compréhension et notre amour pour Dieu, parce que Pessah, ce n'est pas simplement faire un plateau, faire une Haggadah, un récit, ce n'est pas simplement faire un commentaire, peu importe comment on le fait, comment on le vit, mais c'est de comprendre le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, car Pessah est fondé sur l'agneau sacrifié. Et c'est ce qu'il faut retenir. La plupart ne retiennent que la manière, la conformité, le maror et ceci sur le plateau et oublient que c'est Korban Pessah d'abord et que la vraie fête de Pessah, c'est Korban Pessah. Et Korban, c'est véritablement ce qui est sacrifié pour Dieu. Et je crois que c'est très important de le rappeler tout simplement avec simplicité de cœur. Le rappel, non seulement il est fondamental, parce qu'il nous est rappelé quand même que le Korban Pessah est associé à celui qui nous dit de nous souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie d'Égypte sans Korban Pessah. C'est pas le Seder en lui-même qui libère de l'Égypte. Il marque les étapes de la liberté, mais ce qui marque la sortie d'Égypte, c'est l'agneau de Pessah, c'est le Korban Pessah. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la révélation, parce que il nous est dit, Zerer Litziat Mitzraim, le souvenir de la sortie d'Égypte. Et c'est extraordinaire parce que j'ai essayé de regarder et d'analyser comme ça, rapidement, et je me suis dit, mais pourquoi ne pas nous souvenir de la manière dont Dieu nous libère? Pourquoi dois-je me souvenir de la sortie d'Égypte plus que ce que Dieu a donné pour nous faire sortir d'Égypte? Et je crois que c'est là que nous devons réfléchir et aller beaucoup plus loin. En fait, ce souvenir va nous entraîner dans quelque chose où Dieu va démontrer tout simplement sa toute-puissance en rapport avec toutes les divinités de l'Égypte. Car l'Égypte est fondée sur des divinités. L'Égypte est fondée sur des croyances, des superstitions. Elle est fondée sur des systèmes qui fonde les pratiques païennes et les rituels et tous les niveaux de croyance. Il faut savoir que la base de l'Égypte était là. Et Dieu va frapper toutes ces divinités de l'Égypte. Et il y avait celles qui régnaient sur la terre, c'est le rapport avec les dix plaies. Il y a celles qui règnent dans le monde désert, et il y a celles qui règnent sur le territoire des hommes. Et en fait, Dieu a donné 10 plaies, mais 9 vont véritablement frapper là, mais la 10e plaie, elle va être très particulière, parce qu'elle frappe à un moment donné très précis, mais dans la nuit. Elle ne frappe pas de jour, elle frappe dans la nuit. Et en même temps, les esclaves qui devaient sortir, qui avaient fait le Corban Pessah, ceux qui avaient fait le Corban Pessah étaient à l'intérieur des maisons. Et la plaie, la mort, va frapper pendant qu'ils sont à l'intérieur des maisons, et c'est juste après que la sortie d'Égypte a lieu. Mais il y a Corban Pessah avant. Il y a la plaie qui va frapper. Les Hébreux sont dans les maisons avec tous les premiers-nés. Tous ceux qui sont dans les maisons sont protégés et on va le voir. Et je crois que c'est très important parce qu'il y a un deuxième élément qui se greffe. C'est que le Corban Pessah, c'était pas simplement tuer l'agneau, le faire brûler et dire eh, « voilà, merci Seigneur pour le pardon des péchés ». Merci parce que tu me donnes ça, parce que je vais être protégé du mal, parce que je vais être protégé des puissances, parce que je vais être protégé de ceci et de cela. Le système de croyance, à ce moment-là, s'effondre. La foi en l'Éternel enlève les croyances, les superstitions que le monde païen a fondées dans les âmes. La sortie d'Égypte, c'est une sortie des croyances. Des puissances qui gouvernent dans les peurs, dans les angoisses, dans les anxiétés, dans le mental, qui conditionnent la vie des gens dans leur comportement. Être libre, c'est ça. Ceux qui ne sont pas libres, alors allez chercher, hein, il y a des spécialistes partout dans le monde aujourd'hui. Mais on en reparle dans 10 ans. Elle devait être célébrée dans les maisons, mais le Corban Pessah était surtout que les maisons devaient être marquées par un signe, un hôte, un signe. Et le signe, c'était le sang de l'agneau qui devait être mis sur les poteaux et les linteaux, et qui donne une lettre, la lettre He, la lettre de la vie. Et en même temps, c'est très important, parce qu'il fallait être sous le signe du sang de l'agneau. Ce n'était pas simplement d'être dans des maisons, faire un beau rituel, être simplement dans un plateau de céder, chanter de tout son cœur, c'est de comprendre Corban Pessah, avec le signe de l'alliance, le signe du sang qui était posé sur les poteaux et les linteaux des maisons où les gens devaient résider pour échapper, pour ne pas être frappés par la mort. La mort des premiers-nés. C'est comme ça qu'elle était appelée. La deuxième chose, c'est que l'on trouve dans le céder les 4 coupes de vin, plus une 5e qui a été rajoutée pour Élie, le prophète, les 3 matzot que l'on trouve sur la table et qui symbolisent tout un univers et qui sont couvertes. Et il y a celle du milieu où la matza est brisée en deux avec la ficomène qui est cachée sous la nappe. Et ceci nous démontre que c'est ce que Yeshua a pris lors du céder de Pessah qu'il a lui-même inauguré. Quand il dit « prenez du pain », c'est pas du pain levé, c'est pas de la tresse, c'est pas de la brioche, c'est pas du pain de boulanger. C'est le pain sans levain qui marque la nature pure et propre de sa vie sans péché, en quelque sorte, de sans mal, de ce qui allait être agréé par l'Éternel. Et quand on fait cela, la deuxième partie, qui est mise sous la nappe, elle symbolise le linceul, l'ensevelissement, et à la fin du céder de Pessah, on la sort, c'est la résurrection de Mashiach. Et c'est ce qui marque la fin du céder de Pessah. Et nous devons comprendre que il y a toujours quelque chose qui est en relation, et c'est ce qui marque le temps de la liberté. le temps de la liberté qui est fondamental, et en même temps il nous entraîne dans une autre dimension de quelque chose d'extraordinaire. C'est que la sortie d'Égypte, elle est le prototype de toutes les autres libérations, parce que Dieu a inauguré dans ce cadre-là toutes les délivrances, toutes les libérations. Tout est inclus là. Tout. 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 T-O-U-T. Je vais plus loin. Du présent et de tous les futurs. Elle libère même les fils. Elle annule les malédictions. Elle rend libres les fils. Et il faut comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus toujours revendiquer des choses qui n'ont pas de sens. Dans ce que je veux dire également, c'est que il nous est dit et écrit qu'il y aura, à la fin des temps, la fin du quatrième exil, qui est en rapport aussi un peu avec ce qui a été vécu par le peuple d'Israël dans son histoire, dont le plus grand a été celui de ces 2000 ans passés, qui a été le plus long. Mais nous sommes revenus sur notre terre, et c'est un signe pour les nations. Malheureusement, beaucoup ne font pas attention, ils le voient politiquement, ils le voient de manière conflictuelle par rapport à ses voisins, ils le voient comme étant quelque chose qui est la racine des problèmes du monde. Mais néanmoins, il nous démontre quelque chose que Dieu va délivrer également bientôt, par son règne, l'univers, le monde, à Yerushalayim. Et que c'est ce que l'on appelle la délivrance finale. Il y aura la fin d'un exil et il y aura une délivrance finale, ce qu'on appelle la fin des temps. Et il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont fixées et qui sont écrites par avance. Quand on prend même le prophète Daniel, tout est mentionné, il n'y a pas de souci, clairement écrit. Et c'est ce qui constitue le premier-né d'entre les morts, mais aussi notre propre résurrection. Parce que la résurrection d'entre les morts, c'est pas une croyance, c'est pas une adhésion doctrinale, c'est une expérience qui nous ouvre un itinéraire, non plus dans la dimension de la temporalité de ce monde, dans sa limitation de ce qu'est Mistraïm, et de tous les liens qui sont malheureusement liés à cette vie-là, mais de tout l'itinéraire qui nous conduit à la compréhension, à l'élévation dans le royaume de Dieu. Et là, ça change tout. On n'est plus dans la même notion. De cette Pessah, c'est-à-dire de cette sortie d'Égypte, à la Pessah accomplie totalement dans le royaume de Dieu, il n'y en a qu'un qui l'a accompli, c'est Yeshua. Il n'y a que Yeshua Mashiach qui a pu l'accomplir. Et c'est une des particularités de cette nuit qui amène, en plus de cela, un dévoilement encore plus profond, qui nous fait pénétrer encore plus le mystère de Pessah. Parce que Dieu a demandé qu'il y ait un signe sur les maisons, comme je vous l'ai dit. Et le signe, c'était du sang, le sang d'un agneau, un premier-né. Le sang d'un agneau premier-né, et qui devait être mis sur les poteaux et les linteaux, comme je vous l'ai dit. Que la particularité, dans un deuxième temps, c'était qu'il fallait être à l'intérieur de ces maisons, parce que ce signe devenait une protection contre la mort, contre la plaie qui frappe, contre ce qui allait justement détruire l'être. Et ceci est appelé la force de destruction. Et cette force de destruction qui allait être libérée la nuit de Pessah, personne ne pouvait l'arrêter. Personne. Personne ne pouvait l'arrêter. C'est-à-dire que le seul moyen de l'éviter était d'être sous le signe du sang dans les maisons à l'intérieur. Autrement, elle frappait quiconque, sans distinction, sans distinction, le juif, comme l'égyptien, comme peut-être l'éthiopien, peu importe, personne ne pouvait échapper à cela. C'était où tu étais à l'intérieur de la maison, et si tu étais à l'extérieur de la maison, tu étais frappé par la plaie. Point barre. Il n'y avait pas peut-être lui il a pas fait exprès, il est sorti par inadvertance. Excuse-moi, je pense que j'ai oublié d'aller chercher l'arrosoir. Non. C'était ou l'un ou l'autre. C'était ou tu étais préservé dans la vie, ou alors la mort était sur toi. Et je crois que derrière, on peut dire également, par rapport à la manière dont on peut appréhender le jugement dernier, c'est de réaliser que dans les paroles même de Yeshua, à un moment donné, il ne fait pas de distinction entre l'ivraie et le bon grain, mais qu'à un moment donné, il y aura une distinction. Il y aura une distinction réelle, et il n'y aura pas de possibilité de changer de nature par un clin d'œil, ni par un sourire, ni par une excuse. C'est un état, spirituel, c'est un état de l'âme, mais c'est quelque chose de réel. Et je crois que derrière, il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que dans cette plaie, le juste comme le méchant, c'est-à-dire même celui qui est gentil, qui fait pas de mal, pouvait être frappé. C'était pas une propre justice. Il faut sortir de cette notion un peu morale. Oh, j'ai fait du bien dans ma vie, j'ai donné, j'ai jamais fait de mal. Oh, je n'ai pas été méchant avec quiconque. Non, c'est le signe du sang à l'intérieur des maisons qui préservait. Même si tu étais un gentil, même si tu avais aidé le juif, même si tu avais été quelqu'un qui a peut-être osé s'opposer à Pharaon, peut-être quelqu'un qui a voulu prendre la défense, le juste comme le coupable était frappé. Le seul lieu, le seul endroit où la plaie ne frappait pas était l'intérieur des maisons. Ce qui veut dire qu'il fallait être sous le signe du sang. Et en étant sous le signe de ce sang, c'est là que se déroulait le céder. Il y avait le Corban Pessar qui avait été fait au préalable, et en même temps, à l'intérieur des maisons se faisait Exode 12, littéralement, ce que nous faisons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup oublient que c'est quelque chose. Quand ils fêtent Pâques, on ne sait pas ce qu'ils fêtent. C'est verbal, c'est doctrinal, c'est très sympa, mais il y a quelque chose qui manque. Et je crois que c'est très important de comprendre cela. Donc il est pour nous nécessaire de comprendre comment un signe qui protège de la mort est en relation avec cette dixième plaie, par rapport même à un plus grand mystère, l'heure, la précision. Car Moshe va dire à Pharaon à quelle heure ça va frapper. C'est dire que c'est pas dans l'ignorance. Il dit à quelle heure ça va frapper. Et il est dit que cette plaie allait frapper non pas à 6 heures le soir, à 8 heures, à minuit. Alors minuit, dans le calcul hébreu, c'est ni hier, c'est ni demain. C'est un maintenant. C'est un ayom, un moment présent total. C'est ce qui passe du passé au futur, mais c'est cet instant présent précis qui modifie du passé au futur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on n'a pas cette notion, nous, minuit, c'est une heure où, en règle générale, la plupart se focalisent dessus en disant c'est le rassemblement de tous ceux qui sont dans les milieux occultes, les trucs pas clairs. Et Dieu frappe là. Il frappe l'Égypte là, à cette heure-là. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Et il est lié à deux choses. Il est lié au fait que les deux moitiés de la nuit, en fait, sont reliées. Minuit, c'est ce qui relie les deux moitiés de la nuit. La première moitié, et il faut le comprendre comme cela, il y a le temps qui va passer du jour à la nuit, et c'est jusqu'à minuit. Vous avez remarqué que tous les changements d'heure, en général, de jour, se font à minuit. Pourquoi pas à midi? C'est étrange. Et ça, c'est la première chose. C'est cette première moitié est celle qui conduit de la lumière à l'obscurité. De la lumière à l'obscurité. La deuxième, elle nous fait passer de l'obscurité à la lumière parce qu'elle inclut le lever du jour et elle va marquer la journée. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau. Passer des ténèbres à la lumière était le message de Yeshua. De passer de la mort à la vie était le message de Yeshua. Que celui qui, non seulement croyant en lui, passait de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mais que s'il croit en lui, il aura non pas les ténèbres, mais la lumière de la vie. Il aura encore une dimension supplémentaire. Ces deux pôles opposés dans un laps de temps très court, le minuit, ce passage, cet éclatement qui change tout, que Dieu va se manifester, se révéler dans toute sa puissance, et dans ce cadre-là, il démontre son autorité sur toutes les gouvernances de l'univers. Aucune puissance ne peut s'opposer à cela. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une folie qui s'est emparée des hommes, c'est de croire que les forces du mal deviennent presque plus puissantes que celles de Dieu, et qu'on leur attribue des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Sortez des superstitions, s'il vous plaît. J'aimerais, ça me ferait plaisir. D'attribuer des pouvoirs qu'ils ne possèdent pas parce qu'ils ont été dépossédés. Mais vous continuez de leur attribuer. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sorti. Parce que vous n'avez pas fait cette véritable expérience qui conduit à la lumière, à la force de la lumière qui a vaincu les ténèbres. En fait, les ténèbres, l'obscurité n'a aucune force en elle-même. En physique, on dit, il n'y a aucune énergie. Les ténèbres, c'est une absence de lumière. Mais dès que la lumière vient, les ténèbres ne sont plus. Et la lumière, c'est la puissance, c'est la force, c'est l'énergie, et c'est ce qui donne la vie. Et c'est là où vous devez comprendre que même au niveau de l'âme et mental, et dans un ensemble de choses, la dépression, c'est de passer dans cette moitié de la nuit où, au lieu d'être dans la deuxième partie, on reste dans la première. Ce qu'on appelle l'enfermement dans l'asservissement d'un mental qui est lié par l'esclavage de la temporalité. Mais où on n'a pas connu la libération, la délivrance par celui qui est l'infini de Dieu. Et c'est toute la différence. Alors les gens se débattent dans leurs problèmes, et ils vont vers les idoles, les superstars de l'évangile, ils vont aïe. Et pour quel résultat? Des fois ça peut marcher, il y en a des sincères. Et d'autres, non. Alors regardez. Le sens de ces deux signes qui sont liés au sacrifice de l'agneau et qui marquent l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est marqué. Quand on dit qu'il n'y a pas d'amour dans la vieille alliance, l'amour de Dieu, ça a été de préserver la vie, de donner l'occasion d'avoir la vie alors que la mort frappait. Si ça, c'est pas de l'amour, dites-moi comment ça s'appelle. L'amour de Dieu est également celui qui amène la délivrance parce qu'il libère l'homme de ses ténèbres. Il sort l'homme de ses ténèbres, de son anéantissement, de son chaos, de son informe, de son vide pour le rendre complet, total dans l'accomplissement. Et le but est de le conduire à la lumière. Et cette lumière, c'est Yeshua HaMashiach. Alors maintenant, on va lire dans Michée, le prophète, dans le chapitre 7, on va lire à partir du verset 11. « Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées. En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. » À cause du fruit de leurs œuvres. Cessez d'accuser les autres d'être la cause de vos malheurs et de vos souffrances et de vos problèmes. Paix ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il pèse sur le Bassan et en Galaad comme au jour d'autrefois. Et écoutez bien, comme au jour où tu sortis, pourquoi il dit « tu » et pas « vous » ? Pourquoi il s'adresse d'un seul coup à une personne et non au peuple ? Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. » Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il nous est bien dit de nous souvenir quand tu es sorti d'Égypte. Et il nous faut nous rappeler l'expérience que nous avons vécue qui nous font sortir d'Égypte. S'il n'y a pas Corban Pessah, mais seulement un message avec simplement imposition des mains, avec démonstration émotionnelle, c'est nul et non avenu. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de salut. Clair, net. Il n'y a pas de rédemption. C'est une émotion forte, mais ce n'est pas la délivrance de l'âme. Ce n'est pas avoir une âme de résurrection, une yérida, c'est de rester dans Nefesh, dans la vie biologique améliorée. Mais celui qui a fait Corban Pessah, mais qui a compris le sens du sang de l'agneau, le sang qui forme l'alliance dans le Mashiach, nous amène justement à comprendre qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas dans le religieux-religion. Nous ne sommes pas dans la doctrine, nous ne sommes pas dans l'émotion globale, générale, d'une effervescence. Nous sommes dans quelque chose qui nous libère, qui nous sort de l'Égypte, qui nous fait passer de la mort à la vie, de quelque chose qui transforme la vie, de quelque chose qui agit dans notre vie, qui la modifie, et pas simplement qui nous fait aller bien, qui est un remède homéopathique au mal émotionnel de l'âme aujourd'hui, mais une délivrance spirituelle, quelque chose qui est réel. Et je crois que c'est très important de le considérer comme cela. Le jour où tu sortis d'Égypte veut dire justement le jour où tu as compris que tu es entré dans la rédemption, dans un itinéraire nouveau, ce qu'on appelle une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Ce jour-là, tu as une âme qui est nouvelle. Tu n'es pas dans une âme ancienne. Tu n'es pas dans l'âme de l'asservissement, de l'esclavage. Tu peux être aujourd'hui dans un pays libre, ne pas être concerné par ce que les pères ont vécu dans l'esclavage du passé, et pourtant, tu peux souffrir de l'esclavage des pères aujourd'hui. Alors là, on est dans le mystère. Mais à un moment donné, il faut bien une sortie d'Égypte. Ce n'est pas toujours de revendiquer pour ci, pour ça, ah mais ci, ah mais ça. Sors d'Égypte. À un moment donné, sors. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que la rédemption, ce n'est que le point de départ de la transformation. Ce n'est que le point de départ. Ce n'est pas la finalité. Tout le monde s'arrête à cette expérience. J'ai accepté le Seigneur et puis voilà, amen, alléluia. Et après, bon ben voilà. Et j'en ai connu plein, mais quelques années plus tard, ils étaient éteints. Des gens qui avaient vécu vraiment des choses fortes étaient éteints. On a l'impression que on suivait quelque chose qu'on subit par obligation, et on essaye de trouver des lieux plus vivants que d'autres. Et on s'attache à l'homme plutôt qu'au royaume de Dieu. Et là est l'erreur. Pardonnez-moi. Nirakadam. Mais derrière, il faut savoir que ce n'est pas ça. Les gens aiment adhérer aux religieux, aux rituels, aiment adhérer au sensationnel, à l'émotionnel, au palpable, au ressenti, à quelque chose qui est palpable intellectuellement, maîtrisé, quelque chose qui ne me dépasse pas, et c'est tout l'inverse. L'émouna nous amène dans tout l'inverse. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons comprendre, parce qu'à la fin des 7 jours de la fête de Pessah commence la fête des prémices, et cette fête des prémices, qui vient juste après, elle marque non seulement le temps de la résurrection. Que veut dire une âme dans la dimension de Yechida, dans son 5e niveau? Que veut dire une âme qui vit dans la résurrection du Messie? Que veut dire une âme qui est dans la rédemption? Comment doit-elle marcher et se comporter? Quelles sont les nouvelles normes? Celles du royaume de Dieu, et non plus celles de l'asservissement et de l'esclavage dans l'Égypte. De celles que j'ai connues dans le passé, de celles qui m'ont fait fonctionner, de celles qui m'ont amené la douleur, de celles qui m'ont amené les souffrances, les isolements, les états suicidaires, les déprimes et les machins. Les gens fonctionnent dans le passé pensant que un jour viendra peut-être. Et je crois que beaucoup de gens cherchent la thérapie, mais ils doivent chercher le Seigneur. Ils doivent chercher quelque chose qui est lié à cette expérience réelle et non pas quelque chose où ils se réfèrent à leur passé, leur vécu, leurs expériences, leur bagage intellectuel, leur raison, leur intellectualisme. Et finalement, l'expérience est intellectuelle, mais elle ne passe pas dans l'âme, dans l'intériorité de l'âme. Comment vivre? C'est ce que nous appelons les 50 jours qui séparent le temps de la fin de la fête de Pessah au temps de Shavuot, et on appelle ce temps la construction de l'homme nouveau. L'homme intérieur se construit, et il se construit pour aller dans l'alliance de Mashiach. Et je veux dire que une âme nouvelle, une sortie, une nouvelle naissance, c'est une nouvelle éducation, c'est une nouvelle norme de vie, c'est une nouvelle norme de pratique. C'est une nouvelle norme de comportement. Ce n'est plus la même chose. Si tu es identique dans ton minuit entre l'hier et demain et qu'il n'y a aucun changement, c'est qu'il n'y a eu aucune intervention d'en haut. Dans le sens et l'interprétation des Hébreux messianiques, il nous faut capter toute la dimension, parce que nous avons toute la dimension de la révélation accomplie dans celui qui est notre maître. C'est pas Moshe mon maître. Je le respecte de tout mon cœur, mais c'est Yeshua Mashiach. Ce n'est pas Shaoul de Tarse, Paul. C'est pas lui. C'est Yeshua mon maître. En aucun cas, ni Paul, ni l'autre, ni Finé, ni machin, n'est mon maître. Celui qui me construit l'homme nouveau, ce ne sont pas ces hommes, c'est ce que le Tanar, la Bible, ce que l'Éternel a écrit, a donné, qui forme l'identité de l'âme nouvelle, une identité de la rédemption. Pas une identité de la mort, une identité de la vie. Et je crois que c'est ce qui marque la différence dans notre interprétation en tant qu'hébreu messianique. Il est clair que on pourrait s'arrêter purement à quelque chose qui est symbolique, rituel, sympa, et ne va pas plus loin. Or, je voudrais que, justement, cette année, le Seder nous fasse sortir. Fasse sortir même la Keïla de ses ornières. Il faudrait aussi que vous ayez un esprit un peu plus large pour accomplir ce que Mashiach a voulu. et apprendre à marcher dans les voies du Messie, non selon tes propres voies, mais apprends à suivre ce chemin que l'Éternel a ouvert. Parce que les gens font comme ils veulent aujourd'hui. Mais un jour viendra où ce sera très différent. Donc pour les Hébreux messianiques, la révélation de l'identité du Messie qui est révélé et accompli, c'est Yeshua qui est appelé l'agneau de Dieu. Attendez. Il est appelé d'abord l'agneau de Dieu. Ensuite, il est appelé Corban Pessah. Le sacrifice de Pessah. Il est l'agneau de Pessah. Et là, j'ai une confusion. Et la plupart d'entre vous ne faites pas la différence entre l'agneau de Dieu et l'agneau de Pessah. Et pourtant, c'est très clair. Il est l'agneau de Dieu dans le sens où, il a été dit tout à l'heure, il est l'agneau de Dieu qui ôte le mal dans l'univers. Si vous le lisez en grec, ce n'est pas le monde. Car que veut dire le monde pour vous? Vos traductions sont mauvaises. C'est l'univers, cosméou. Il est venu ôter le mal qui a été posé dans l'univers. Et il ôte ce qui fait rater le futur. C'est le sens de l'accomplissement. Si on n'est pas dans l'accomplissement, c'est qu'on a raté le futur en Dieu. Le futur que Dieu avait pour nous. On revient à l'image du Adama qui a fait le mauvais choix et qui s'est mis en exil, qui est sorti du Gan Eden, du jardin des délices, là où il aurait dû construire, bâtir toute la dimension dans l'arbre de vie et qu'il a raté. C'est cet itinéraire. Yeshua est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et je dirais, pour appuyer un petit peu sur certains points, pas seulement personnel, pas individuel, pour moi, le salut pour moi. Ou à moi, rien qu'à moi. Non. Le salut de l'univers. Il ôte le mal de l'univers et pas seulement de moi, même si je suis inclus là-dedans. Parce qu'il inclut toutes les dimensions du temps. Toutes les dimensions dans tout ce qui est extraordinaire. Et je crois que c'est l'un des points qui est important, parce qu'il nous est dit également dans Jean 1:9, on va le lire, dans Yohanan, il nous est dit quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on va lire ensemble. Ah, les pages qui se collent, ça va pas. Donc, dans Yohanan, on va lire à partir du verset 6. « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Yohanan. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans l'univers, dans le monde, dans notre temporalité, dans notre dimension du temps, éclaire tout homme. Elle était dans toutes ses dimensions, et le monde a été fait par elle. Et le monde, l'univers, ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, dans les quatre lettres du tétragramme, please. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de Dieu, de l'homme, mais de Dieu. Là est la grande différence. Là est la grande différence. Né de Dieu, c'est Pessah. Comme Moshe, il est envoyé, Mashiach, pour ôter le pouvoir de la mort, pas seulement dans la temporalité de la mort physique, de la mort qui est liée à une destruction de vie par le vieillissement, par exemple, ou la maladie. Il nous est dit clairement, et nous devons le retenir comme étant cela, il a versé son sang comme étant Corban Pessah. Entre les deux soirs, entre 12h et 15h. Et ensuite, il y a eu le soir, l'obscurité normale. Et il y a eu quelque chose qui est venu modifier les conditions du temps. Et je crois que c'est très important de savoir que au même moment, dans le temple, étaient sacrifiés tous les agneaux. Mais à ce moment-là, il s'est assombri comme au moment de l'Égypte, comme au temps où, d'un seul coup, l'obscurité allait remplir et que la mort allait être détruite à ce moment-là, que le pouvoir de la mort allait être ôté. Et donc, nous savons une chose, c'est que Yeshua, à ce moment-là, en devenant le sacrifice de Pessah, l'agneau de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui s'est produit? Il est mort. Eh bien mort. Mais en fait, il est jamais mort. Il est mort physiquement. Il est mort humainement. Il est mort dans la temporalité, mais pas au niveau de l'éternité. Et là, toute la différence se manifeste. Il est venu pour ôter le pouvoir de la mort, c'est pourquoi il peut donner la vie. Parce qu'il a reçu la puissance, la capacité de donner la vie et de ôter la force de la mort dans la vie de l'homme et de lui donner la force de l'existence, la force de ne plus être un survivant de l'existence, un mort vivant, un déprimé, dépressif et qui conduit tout le temps au négativisme, au pessimisme, à ne jamais aller bien. Celui qui est dans la rédemption, il peut avoir des phases, des moments, des passages, mais il sort fort. Et il sort comme étant quelqu'un où la joie de la vie, la joie de l'Éternel qui est notre force, est plus forte. Et elle se manifeste pas simplement dans le blabla, dans la doctrine, dans la discussion, mais dans l'existence elle-même. Et je crois qu'il y a l'autre niveau, c'est qu'il a versé son sang. Et en même temps, il y a toute cette dimension où les ténèbres et la lumière se sont affrontées dans ces moments. Et le voile du temple a été déchiré. Le temps manque pour pouvoir en parler. Mais ce qui se confirme par le fait que Yeshua, afin que nous puissions recevoir tout le sens, n'est pas seulement l'agneau de Pessah. Et c'est là où on manque vraiment de temps. Mais il est appelé l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte. Et en même temps, c'est très bizarre, il est Corban Pessah pour mourir. Et finalement, nous devons comprendre que Pharaon, dans sa signification de Misraïm, de sa limitation, de tout ce que l'on a déjà pu voir dans l'itinéraire de Pessah, nous amène à comprendre que Yeshua a vaincu tous les pharaons, et le dernier des pharaons qui était celui qui était au-dessus du Mashiach, dans les lieux célestes, dans la hiérarchie angélique, et qui s'appelle le diable ou Satan, ou celui que vous voulez, est vaincu. Point barre. C'est terminé. Si vous voulez lui donner du pouvoir, libre à vous, mais ne me cassez pas les pieds. C'est quelque chose qui doit être acquis. Quelque chose qui doit être intégré. C'est quelque chose qui n'est pas intellectuel, mais spirituel. Mais en même temps, il demande notre volonté. Et Yeshua disait justement à ce propos que celui qui croit en lui ne mourra pas, mais il aura la lumière de la vie, que celui qui croit en lui ne passera des ténèbres à la lumière de la mort, à la vie, mais il est également quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il dit non seulement tout cela, mais il dit qu'il est la résurrection et la vie. Il dit pas seulement « je suis un ressuscité, je suis un rescapé, je suis seulement quelqu'un qui aurait été agréé à un autre niveau que tous les humains, mais sans la dimension d'être Machiach ». Or, il dit qu'il est la résurrection et la vie, ce qui veut dire qu'il a vaincu tous les niveaux, toutes les dimensions de la puissance de la mort, qu'il est le Messie et qu'aucun homme ne peut l'égaler. En Shem Racher, il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Alors là, j'aurais une tapée de versets à lire. On va lire 2 versets au lieu des 10. Romains. Chapitre 8. Et à partir du verset 9. Pour vous, écoutez bien en rapport même avec ce que je disais, vous ne vivez pas selon la chair, selon la dimension de cette existence des pulsions. Vous êtes libérés normalement de ça. Mais selon le souffle divin, si du moins le souffle de Dieu habite en vous, si du moins le souffle de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas ce souffle du Messie, si quelqu'un n'a pas le souffle de vie du Messie, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Je ne sais pas quel est le souffle qui peut remplacer. Enfin oui, je sais, mais parfois les gens confondent. Alors écoutons. Et si Machiach est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui, si le souffle de vie, qui est celui de Dieu, Ruach HaKodesh, qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité, vous avez entendu, il y a le nom dans vos Bibles, hein, pas de Yeshua, mais de Jésus. Je le relis. Si le souffle de celui qui a ressuscité Jésus, hein, bien comme ça, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Machiach, le Oin. D'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son souffle qui habite en vous. Apocalypse 22, 17 pour... j'ai dit, ah oui, Apocalypse 22. Il faudrait le lire assez loin. Allez, on y va. Il me montra un fleuve de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu, et de l'agneau. Il n'est pas dit ni du Fils, ni de qui que ce soit, ni d'un nom. Il est parlé d'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Baruch Hashem. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Son nom sera sur leur front et il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Or, bien sûr, lisez le reste après, mais je voudrais conclure tout simplement en disant que il y a une chose que les gens ont oubliée. C'est que si nous pouvons lire cela, nous émerveiller, il nous faut nous rappeler aussi un événement qui est relaté dans les évangiles au chapitre 22 de Luc, par exemple, ou dans l'évangile de Matthieu, où il nous est quand même bien démontré que Yeshua a accompli en conformité totale le céder de Pessah et qu'il a suivi les prescriptions et qu'il a manifesté une chose qui est très importante à comprendre, à réaliser pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est de voir que quand il est dans la troisième coupe de la rédemption, dans la troisième coupe de ce céder de Pessah, et non pas dans quelque chose qui est dans un culte où on ne sait où, animé par qui, par quoi, qui avait des... Non, il était dans la conformité de la réglementation du céder de Pessah, d'Exode 12, tel que Dieu l'avait dit, puisqu'il en est l'accomplissement. Et à ce moment-là, il y a ce qui inaugure le Kiddush, il y a la coupe de sanctification, et on arrive, après le repas, à cette coupe de la rédemption. Et c'est quand il prend cette coupe de la rédemption et qu'il dit « c'est la nouvelle alliance, mais en mon sang ». Il ne dit pas que c'est une nouvelle alliance qui est composée de livres qui vont remplacer les autres livres de la Torah. Tant mieux si je vous choque. C'est pas des livres, la nouvelle alliance. C'est l'alliance de Mashiach accomplie par son sang. L'alliance du Messie passe par le sang du Messie, tel que nous l'avons lu aussi dans Romains. Et qu'il ne s'agit pas de dire ancienne, nouvelle alliance, ça n'existe pas dans le vocabulaire hébraïque. C'est une continuité de l'accomplissement. C'est de Pessah au royaume de Dieu. Et il n'y a pas de page blanche de séparation. Il y a un seul accomplissement possible qui se fait dans le Messie. Et en même temps, quand il a pris la matzah, comme on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas un pain levé à 10h du matin. C'est dans la nuit du Seder. Et il est réuni et encore la continuité, car le déroulement et la conclusion, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout, hein, pourtant il y en a beaucoup encore. Mais c'est de savoir que, comment on pourrait le traduire, qu'à un moment donné, on ne peut pas s'arrêter simplement sur des doctrines qui se sont réorientées à partir d'une déviance du Concile de Nicée, faussant la date de Pâques, en fixant une nouvelle Pâques avec un nouveau calendrier qui est distingué, séparé de celui d'Israël, de celui du Messie, de celui de l'accomplissement, et que ça a été le moment de la séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une Pâque niçoise, nicéenne. Et il y a une Pâque de la Torah de Dieu. Il y a la Pessah de l'Éternel, comme on l'a lu. Ce n'est pas la Pâque des Juifs, c'est la Pessah de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel, comme on l'a lu. Et ce qui fait la différence entre tout cela, c'est que nous entrons dans l'accomplissement qui se fera à Shabbat, le Malchut sera à Shabbat le septième jour, qui inaugurera le huitième jour, le temps de l'infini, et il nous est démontré tout simplement que à ce moment-là, il y a cet accomplissement total. Et que pendant que nous sommes dans ce laps de temps, dans la préparation de Malchut, dans le temps aujourd'hui dans lequel nous sommes, qui refixe les règles en revenant sur les racines et non pas sur l'émotion ni la sentimentalité par rapport à l'affection d'une tradition, on doit être dans la vérité ou on est hors de la vérité, point barre. On est ou dans quelque chose qui est vrai, ou dans quelque chose qui accepte la déviance, mais la vérité n'est pas en nous. Et ceci se traduit tout simplement dans ce que Yeshua a fait, par deux choses. Premièrement, il nous dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne, de cette vigne, il ne fera plus ce Pessah, il ne boira plus à l'occasion d'un céder de Pessah, parce qu'il sera terminé, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. D'autres traductions peuvent donner également jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu et jusqu'à ce moment où, avec mon Père dans son royaume, on le boira à nouveau. Ça change tout à fait. Ça veut dire quoi? C'est une commémoration que nous passons de cette sortie d'Égypte d'Israël dans l'accomplissement du Messie qui libère l'âme, mais qui en même temps ne donne pas une nouvelle dimension dans l'histoire selon ce que les hommes en ont fait. Mais elle nous est donnée afin que nous la célébrions à chaque Shabbat, à chaque Erev Shabbat et Shabbat, ce que nous appelons le Kiddush, qui est le pain et le vin, de la bénédiction. Et chaque fois que nous faisons le Kiddush en tant que juifs, nous faisons cette commémoration de la sortie d'Égypte. Nous ne sommes pas simplement dans quelque chose qui célèbre Shabbat. Nous célébrons la sortie du monde et des nations pour qu'elle entre dans le royaume de Dieu. Voilà la nouvelle dimension. Je suis désolé, j'ai un peu débordé. Que l'Éternel vous bénisse. Shavua Tov. Chag Pessah Sameach.